Afro Congolais présenté par Alain Mourinho.
Bonsoir. Dialogue entre Congolais revient ce soir sur les aspects économiques du 14e sommet de la francophonie. Parmi les résolutions, les chefs d'État et des gouvernements se sont engagés notamment à s'investir pleinement dans le processus de réforme du système financier et monétaire international en vue d'un ordre mondial équitable, en veillant à une meilleure représentation des pays en développement au sein des organes de décision des institutions financières internationales. Ils encouragent également la poursuite des échanges entre les pays industrialisés et les pays en développement. Quelle analyse faire de ces résolutions? Quel pourrait être leur impact sur l'économie des pays de l'espace francophone? Nous recevons comme invité Al Kitenge, analyste économique, stratège et coach. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Professeur Grégoire Bakandeja, professeur de droit économique et des finances publiques à l'Université de Kinshasa, de Paris et de Sorbonne. Il est ministre honoraire de l'économie et ancien président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Professeur Bakandeja, bonsoir.
Bonsoir.
Michel Somoué, analyste économique et directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises congolaises, FENAPEC. Monsieur Somoué, bonsoir. Voilà, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Nous sommes mardi 16 octobre 2012. Merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le 14e sommet de la francophonie s'est clôturé dimanche dernier à Kinshasa. Les participants ont adopté une série de résolutions, notamment sur le plan économique. On peut citer par exemple la résolution selon laquelle les chefs d'État et des gouvernements encouragent la poursuite des échanges entre les pays industrialisés et les pays en développement. Cela en vue de réduire les déséquilibres macroéconomiques entre les États ainsi que les inégalités sociales et économiques entre les populations. Kéline Kouté revient sur les résolutions à caractère économique.
Parmi les autres résolutions issues de ce sommet, les chefs d'État et des gouvernements s'engagent à consolider la coopération multilatérale et la solidarité francophone afin de lutter plus efficacement contre la pauvreté et la malnutrition. Ils s'engagent aussi à promouvoir la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et promettent de renforcer leur soutien en faveur de la coopération tripartite. Les chefs d'État et des gouvernements demandent à l'OIF et aux opérateurs de proposer, en vue du prochain sommet, une stratégie économique pour la francophonie réunissant pouvoirs publics, entreprises, institutions éducatives et sociétés civiles. Une attention toute particulière sera réservée à la création des partenariats d'entreprises axés sur le développement de l'activité économique, de l'emploi dans les pays du Sud, sur les échanges et les investissements Nord-Sud et Sud-Sud, ayant à l'esprit que la langue française est également un outil au service de l'économie, lit-on dans la déclaration finale du 14e sommet. Les chefs d'État et des gouvernements invitent enfin l'OIF à encourager et à appuyer les collectivités locales dans la mise en place d'actions en faveur de l'entrepreneuriat et du développement économique local.
Merci Kéline Kouté. Toujours dans le volet économique, le secrétaire général de l'OIF a interpellé les États membres de la francophonie, Abdou Diouf.
La francophonie dans toutes ses composantes se présente à vous aujourd'hui avec la conviction que, comme l'écrivait Tite Live, il faut oser ou se résigner à tout. Parce qu'en laissant certains marchés se déconnecter de l'économie réelle, en laissant perdurer l'absence d'éthique et de régulation de l'économie mondiale, en laissant se creuser les inégalités et les injustices, en différant année après année l'adoption des mesures urgentes et innovantes qui s'imposent en matière de développement durable et de préservation des biens communs de l'humanité, ce n'est pas seulement des centaines de millions d'hommes, de femmes, de jeunes surtout, que nous condamnons au chômage, que nous condamnons à être plus pauvres et plus désespérés qu'ils n'étaient. C'est aussi le rôle et la stabilité de l'État, la vitalité de la démocratie que nous mettons en danger.
Alky Tengue, je rappelle que vous êtes analyste économique, stratège et coach. Commençons par cette résolution ayant trait au processus de réforme du système financier et monétaire international en vue d'un ordre mondial équitable en veillant à une meilleure représentation des pays en développement au sein des organes de décision des institutions financières internationales. Cette réforme est-elle possible? Si oui, à quelles conditions?
Cette réforme s'impose, elle s'impose d'elle-même. Elle frappe les esprits les plus durs, les esprits de ces pays riches qui veulent s'enrichir sans limite, de ces hommes riches qui veulent s'enrichir sans éthique. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez la crise financière internationale et ses différentes conséquences, tout le monde se rend compte qu'une autre économie est possible, elle est nécessaire et elle est aujourd'hui nécessaire et de manière immédiate. L'autre chose, c'est qu'on s'est rendu compte que au détriment des pays pauvres, on pouvait mener un certain nombre de règles financières internationales parce qu'elles bénéficiaient aux pays riches. Et on s'est rendu compte que, à force de courir derrière la richesse, on est tombé dans ce qu'on appelle l'illusion. Et l'illusion a éclaté. Et aujourd'hui, le monde s'est rendu compte qu'il nous faut plutôt une économie saine plutôt que des économies des finances folles. Et je crois que simplement les grandes nations se rendent de plus en plus compte que le comportement essentiellement des États-Unis d'Amérique qui refuse de signer les différentes conventions internationales qui amènent à une certaine responsabilité internationale pose véritablement problème. Il est important que d'une manière ou d'une autre, la francophonie serve de caisse de résonance à ce cri d'alarme qui est un vrai cri d'alarme mondial pour que les grands pays dont la Chine et les États-Unis se rendent compte qu'il y a un besoin de responsabilité internationale.
Deux auditeurs Alky Tengue, maître Adrien Ilobakwe de Kananga au Kassai Occidental, les recommandations de l'OIE sont bonnes, mais je me demande par quel mécanisme cette organisation compte matérialiser ses recommandations au moment où nous savons que le marché économique est dans la plupart des cas aux mains des anglophones. Lui, Aloubati Cicéron de Kindo Maniema, nous saluons cette initiative de la réforme du système économique international prise par nos chefs d'État des pays francophones lors de ce 14e sommet, mais nous redoutons la possibilité des États francophones à faire passer ces résolutions au sein des institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale, au sein desquelles il y a une majorité d'États de l'espace anglophone, et surtout en cas de divergence d'opinion, Alky Tengue, n'est-ce pas une illusion de la part des États francophones?
Non, c'est une grosse erreur de penser que le monde se positionne de cette manière. Aujourd'hui, les pays européens, furent-ils anglophones, sont tout à fait engagés dans la limitation des gaz à effet de serre et de toutes les dispositions utiles qui tendent à améliorer la prise en charge collégiale de l'espace commun qu'est le monde aujourd'hui et la planète Terre. Et donc le débat ne se situe pas à ce niveau-là. Il s'agit aujourd'hui de deux grands pays qui sont, j'ai envie de le dire, des pays délinquants, c'est peut-être comme ça qu'on devrait les appeler. Il s'agit des États-Unis et il s'agit de la Chine. Le comportement de ces deux pays, les plus riches du monde, parmi les plus riches du monde, aujourd'hui est totalement inacceptable. Et aujourd'hui, l'espace francophone est en train de dire, nous allons monter la voie le plus haut possible, mais il faut savoir qu'au niveau européen, les anglophones et les anglais parlent exactement, les anglophones et les francophones parlent exactement le même langage. Aujourd'hui, le cri d'alarme, c'est de dire que la France et les pays francophones veulent prendre le flambeau pour parler à très haute voix aux États-Unis et à la Chine pour qu'ils arrêtent de se conduire de la manière dont ils se conduisent aujourd'hui. Ils doivent s'engager en même temps que tous les autres pays à un comportement responsable vis-à-vis de la nature. Ce sont les deux pays qui détruisent le plus la nature, ce sont les deux pays aujourd'hui qui refusent de prendre des engagements.
Mais ils en ont les moyens, est-ce qu'ils vont fléchir?
Ça prendra le temps que ça prendra. Je crois simplement que c'est une question de responsabilité. Le chef d'État américain a refusé de signer les différents engagements, dont le protocole de Kyoto, qui est d'ailleurs en train d'aller vers la fin de sa période de légalité. Mais ils prennent des dispositions, bien que timides, internes, pour essayer de donner des signaux positifs. Je peux dire sincèrement que s'il s'agissait d'un petit État, on l'aurait traité de tous les noms.
Une autre résolution, Alky Tengue, les chefs d'État et des gouvernements, quand ils disent qu'il faut veiller dans cette réforme du système financier et monétaire international à une meilleure représentation des pays en développement au sein des organes de décision des institutions financières internationales, les pays en développement en ont-ils les ressources?
Là, vraiment, c'est une vraie illusion, ça ne va pas arriver, parce que c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Encore une fois, fois, je voudrais dire de manière assez claire et sans ambages que les pays riches vont continuer à nous dicter la loi. C'est pour ça qu'en même temps que nous participons à l'économie et à la finance internationale, il faut développer des instruments qui nous permettent de pouvoir nous protéger, tout à fait comme les États-Unis se protègent aujourd'hui, tout à fait comme la Chine se protège aujourd'hui. Il est important que chaque nation commence par exister, devienne dure, devienne compétitive, pour qu'elle soit en mesure de se faire entendre. Vous savez, nous avons des atouts. C'est vrai que nous n'avons pas les technologies et les finances nécessaires pour être en mesure de nous comparer dans le marché mondial tel qu'il se présente aujourd'hui, mais nous avons aujourd'hui des ressources naturelles, nous avons aujourd'hui des réserves de forestières qui sont des réserves épuratrices de l'atmosphère. C'est des éléments que nous pouvons mettre sur la table pour nous faire entendre, d'une manière ou d'une autre.
Une autre résolution, nous nous engageons à consolider la coopération multilatérale et la solidarité francophone afin de lutter plus efficacement contre la pauvreté. Al-Kitenge, y a-t-il suffisamment de solidarité entre les pays francophones?
Je doute fort de cette solidarité. La seule solidarité que je vois ici, c'est qu'il faille résister contre la Chine qui devient de plus en plus envahissante. Et je crois qu'en ce moment-là, des pays européens, dont la France et certains autres, se rendent compte que pour réellement résister à la poussée profonde forte de la Chine, il faut trouver des mécanismes de solidarité. C'est une solidarité à plusieurs vitesses, en fait, qui va bénéficier à ceux qui ont réellement à perdre. Et en ce qui concerne la situation actuelle, je pense plutôt que ce sont les pays européens qui ont quelque chose à perdre plutôt que nous. Et donc, encore une fois, nous devons rester les yeux ouverts. Ça veut dire avoir les engagements que nous avons dans le cadre de la francophonie, être en mesure de tirer notre épingle du jeu, mais également rester les yeux ouverts pour que les avantages que nous pouvons avoir avec les autres partenaires et que nous ne pouvons pas avoir avec nos partenaires francophones, que nous ayons des choix judicieux.
Guillaume Le Braquebec de Maragui en province orientale, qu'est-ce que la RDC produit par rapport à d'autres pays francophones au monde et quelle image donne-t-elle à l'extérieur devant les autres membres pays francophones avec une économie informelle? Les différents pays de l'espace francophone Al-Kitenge ont différents niveaux d'économie. Y a-t-il possibilité qu'ensemble ces pays soient tirés vers le haut pour faire réellement un bloc qui puisse peser?
Je disais tout à l'heure qu'en fait, avant de pouvoir exister dans un réseau, il faut exister en tant qu'unité, en tant qu'entité.
Entité.
Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Regardez le Gabon, regardez la taille du Gabon, regardez la quantité de bois scié que ce pays est en train d'exporter et comparé à ce que nous exportons. Il y a un problème. Regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, regardez sa taille, regardez la quantité de cacao, parce que le leader du monde aujourd'hui en termes de cacao, c'est quand même la Côte d'Ivoire. Et nous avons par le passé été le premier exportateur du monde de cacao. Regardez ce qu'ils font, regardez ce que nous faisons. Regardez le Rwanda, regardez la quantité de thé et de café qu'ils exportent, regardez notre taille, regardez les espaces dont nous disposons. Ça pose toute la question pour un pays comme le nôtre de son existence dans cet ensemble francophone qui veut s'exprimer. Et bien entendu, je soutiens la solidarité, mais la solidarité doit être dans la solidarité de ceux qui existent, de ceux qui se développent, de ceux qui ont des ambitions.
Professeur Grégoire Bakandeja, vous êtes professeur de droit économique et des finances publiques à l'Université de Kinshasa, de Paris et de Sorbonne, également ministre honoraire de l'économie et ancien président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Professeur, le processus de réforme du système financier et monétaire international en vue d'un ordre mondial équitable, professeur, n'est-ce pas illusoire?
Merci, monsieur le journaliste. Mais d'abord, il faut partir d'un premier constat. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par économie? L'économie porte sur quoi? L'économie porte sur ce qui est produit, ce qui est vendu, ce qui est échangé. Donc, ça porte sur le marché. Et donc, si vous voulez participer activement à l'évolution de l'économie mondiale, il faut d'abord que vous vous assuriez que vous êtes dans la phase de production permettant un échange avec le monde extérieur. Alors, si on prend seulement l'espace francophone, qu'est-ce que cela représente aujourd'hui en termes de commerce des marchandises au niveau mondial? C'est presque 20%. 1% du commerce mondial des marchandises. Donc c'est insignifiant pour pouvoir jouer un rôle très important, même dans le cadre des réformes qu'on doit mener, et ces réformes doivent s'inscrire dans le cadre du système des Nations Unies. Et en matière économique, il y a deux institutions qui sont connues, c'est le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Alors, pour participer activement à ces réformes, il faut du donnant. Et c'est pourquoi on parle de la mondialisation. On ne peut pas aller dans la mondialisation sans qu'on ait quelque chose à donner pour recevoir. Voilà la première interrogation à laquelle il faut se livrer. Deuxième interrogation, pourquoi il y a des réformes? il y a des réformes parce qu'il y a la crise. Mais est-ce que cette crise intéresse les pays de l'espace francophone qui, majoritairement, sont des pays africains? Nous ne sommes pas intéressés. Pourquoi? Parce que ça porte sur les économies des marchés financiers. Or, nous ne sommes pas dans les économies des marchés financiers où il y a eu de la spéculation qui a poussé à ce qu'on arrive à la situation où les États, étant endettés davantage, sont dans l'incapacité de pouvoir honorer leurs engagements vis-à-vis de l'extérieur. Nous, on n'est pas dans ces économies-là. On est dans les économies d'endettement. Heureusement que depuis un certain temps, avec les initiatives qui ont été prises par les deux institutions, le Fonds monétaire et la Banque mondiale, avec cette stratégie-là de réduction de la pauvreté, avec l'initiative Pays pauvres et endettés, on a commencé à désendetter certains pays en développement. Donc, quand on parle de réforme, il faut d'abord s'assurer qu'on est en mesure de participer activement à l'élaboration de ces politiques, qui sont des politiques macroéconomiques et des politiques d'appui au développement des pays à faible revenu. Si ce n'est pas résolu au départ, on risque d'y aller, comme toujours, en ordre dispersé, et c'est finalement au résultat négatif qu'on aboutit le plus souvent et on commence à se lamenter. Donc il y a d'abord un problème d'organisation. Il faut d'abord s'organiser, intégrer les économies. Je voudrais donner les éléments, les chiffres en ce qui concerne la francophonie. 20% du commerce mondial, c'est à peu près moins de 200 milliards de dollars.
Alors, professeur, quand vous dites...
Donc, vous voyez la difficulté qui est la nôtre.
Alors, professeur, quand vous dites qu'il faut être en mesure de participer à l'élaboration des programmes macroéconomiques, c'est-à-dire être en mesure de proposer quelque chose dans les échanges, comme vous l'avez dit, les pays africains vivent dans une économie d'endettement, vous l'avez dit également, donc on peut considérer que ce processus qui doit veiller à une meilleure représentation des pays en développement au sein de ces organes de décision, c'est mission impossible.
Bon, c'est pas une mission impossible, c'est une question d'organisation. Je vous ai dit que lorsque vous voulez participer activement à l'économie mondiale, il faut avoir suffisamment de ressources. Parce qu'au niveau du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, il y a un système de quotas. Il y a des États, on a augmenté dernièrement le budget de Fonds monétaire comme celui de la Banque mondiale. Combien de pays africains vont participer à l'augmentation de ce capital? Il y en a très peu. Et pourtant, il y a des pays, ce qu'on appelle les pays émergents, comme... la Chine, l'Inde, même l'Afrique du Sud, etc. Alors, quand vous n'avez pas quelque chose à donner, vous allez parler sans que personne ne vous écoute. Si nous devons continuer à rester dans les économies d'exportation des produits sans y ajouter une certaine valeur, en créant localement des industries, des transformations qui permettent d'avoir suffisamment de ressources nécessaires parce qu'on va vendre à l'extérieur et on ne s'en sortira pas. Or, ce n'est pas quelque chose de sérieux, d'impossible. Mais c'est par l'organisation, en développant des stratégies permettant à ce que l'investissement privé soit assuré dans le pays, que ce soit par les nationaux ou par les étrangers. Et vous voyez, dans la plupart des pays où on voit des gens qui participent activement au niveau de l'élaboration des politiques au niveau mondial, ce sont des pays où des investisseurs nationaux participent activement au développement de l'investissement. Alors, quand vous voyez, par exemple, la plupart des pays africains, quels sont les investissements qui sont réalisés dans le pays? Ce sont des investissements, par exemple, dans des secteurs qui ne sont pas porteurs de revenus et d'emplois. Je prends, par exemple, la téléphonie cellulaire. Lorsqu'on parle de taux de croissance économique dans la plupart des pays africains, c'est au niveau simplement des services de téléphonie.
Merci.
Mais on voit rarement les gens investir dans le secteur productif pour transformer les unités de production qu'il y a, donner de l'emploi localement. Et c'est dans ce contexte-là que les gens disent qu'on voit qu'il y a des taux de croissance, mais ces taux de croissance, les gens ne vont pas manger les taux de croissance. Ça doit se ressentir dans le panier de la ménagère, ça doit se ressentir en termes de pouvoir d'achat. Et c'est dans ce moment-là qu'on devient puissant pour pouvoir participer activement à l'économie mondiale et avoir un droit de regard.
Merci, professeur. Michel Somoué, bonsoir, vous êtes en ligne.
Oui, bonsoir, je vous écoute. Hein.
Vous êtes analyste économique et directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises congolaises, FENAPEC. Quelle est votre analyse au sujet de la résolution concernant le processus de réforme du système financier monétaire international?
Je dirais deux petites choses à ce sujet. La première, c'est que l'économie ne se mesure pas à l'aune de la solidarité, qui signifie la sympathie. L'économie se mesure à l'aune de l'intérêt qui engage la compétition, c'est-à-dire le conflit quelque part. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette affaire qui concerne les réformes financières internationales, ce n'est pas un nouveau discours, parce que vous savez que c'est depuis 1973 que nous parlons de la mise en place d'un nouvel ordre économique mondial. Depuis 1973, on en parle, et depuis 1973, on n'a pas connu d'avancées significatives. Ça signifie que quelque part, nous sommes en train de faire un éternel retour, nous sommes en train de faire des va-et-vient, et on tient le même discours, on répète la même chose, on ne change pas de stratégie, mais chaque fois qu'on se rencontre, on répète les mêmes choses, parce qu'on a, on dirait qu'on a besoin de parler, un point c'est tout. Moi, je ne pense que ce nouvel ordre économique viendrait d'une certaine solidarité, mais ça viendra dans la mesure où chacun reconnaît l'importance de l'autre. Il appartient donc à chaque nation et non pas à un groupe de francophones, quoi qu'on dise, comme a dit Al-Kitenge tout à l'heure, qui disait, il faut d'abord être comme une entité. Il faudrait que chacun s'affirme d'abord comme une économie nationale qui va vers la mondialisation en mettant au devant de la scène ses intérêts propres. C'est lorsque vos intérêts, vous, dans la défense de vos intérêts, vous arrivez à arracher les autres que vous pouvez arracher aux autres ce qui leur revient, que vous trouverez nécessairement un jour un terrain d'entente pour que on dise, voilà, écoutez, arbitrons les intérêts, mettons des choses, mettons-nous autour d'une table et faisons des concessions. C'est ça, en fait, l'ordre dont il faut parler. C'est un ordre établi sur la base des concessions que les uns et les autres doivent se faire, mais ces concessions ne peuvent pas exister tant que les gens ne viennent pas d'abord armés jusqu'aux dents pour arracher ce qui leur revient de plein droit ou ce qui leur revient par leur force. L'ordre économique mondial, c'est un rapport de force. Ce n'est pas une mesure de la sympathie humaine, ce n'est pas un état de cœur, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un conflit et il faut se battre. Ça, c'est le premier point de vue que je mets en disant, si on continue à naviguer dans ces fausses espérances d'une solidarité qui, en réalité, n'est que fallacieuse, on finira par tourner en rond des éternités, on ne trouvera jamais le premier mondial dont on parle. Il faut, encore une fois, je le répète, mettre en place un ordre national, mettre en place des économies nationales capables d'identifier leurs intérêts et d'aller vers le monde en compétition pour la conquête de leurs intérêts propres. Et de cette conquête viendra le moment des concessions que l'on devra se faire de part et d'autre. Ça, c'est ce que je veux dire au départ, à propos de ces résolutions qui ne sont pas, à mon avis, de nouvelles résolutions, mais qui sont la répétition de ce qu'on a entendu depuis des décennies et des décennies. En fait, il ne reste que des vœux pieux, des vieilles et fatigantes espérances.
Alors, il y a Longamboyo de Paris en France qui dit « J'aurais souhaité que les résolutions prises par l'EIF mettent l'accent sur les transferts de technologies pour permettre la création de la valeur ajoutée, les investissements directs et au niveau du continent, l'intégration sous-régionale qui peut contribuer au développement et endiguer les velléités guerrières de certains pays, Michel Sommoin. »
C'est la mesure de la sincérité des autres. Le transfert des technologies, mais ça signifie quelque part faire des secrets d'un pays, de la puissance d'une nation vers une autre nation. Ça ne peut pas se faire. Ça ne se conçoit pas dans le cadre de sciences économiques. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que c'est ce qui fait la puissance d'une nation par rapport à une autre. Il n'y a pas, je l'ai dit tout à l'heure, l'économie ne se mesure pas à l'aune de la solidarité, de l'amour entre les nations. C'est une affaire d'intérêt, un point barre. Il n'y a pas autre chose que cela. Chacun va dans la mondialisation, chacun va dans l'organisation internationale ou régionale, motivé, mu par ses propres intérêts. C'est ce que nous allons rechercher au niveau international. On ne peut pas se tromper et de croire que, bon, par un coup de magie, par la grâce de Dieu, un pays comme la France va transférer ses technologies à la RD Congo. Regardez le CCIZ qui a fini par être transformé en hôtel aujourd'hui. Mais c'est la France qui l'avait construit. Et la France ne veut jamais transférer technologie pour la maintenance, pour l'entretien de ce beau cadre, jusqu'à ce qu'on a fini par le transformer en un hôtel. On peut en dire autant de la RTNC qui est restée des décennies et des décennies sans climatisation parce qu'on était incapable de refaire, de remettre la climatisation centrale. Mais le transfert de technologie signifie qu'un pays accepte quelque part de céder une part de ses stratégies, une part de ses intérêts à un autre pays, ce qui n'est pas évident dans un monde où tout le monde on lutte pour la survie. J'ai déjà entendu Al-Kitenge parler de la jungle, mais c'est un mot fort, mais je crois qu'on n'est pas loin de là. Chacun va dans la mondialisation pour croquer les autres afin de survivre. C'est ça la réalité. Et tant qu'il y a des nations comme les nations africaines qui continuent à croire à une certaine sympathie, une certaine solidarité, un certain amour paternel de la France ou justement du Canada, je crois qu'on fait une grosse erreur. Je pense qu'il faut que les gens comprennent que l'économie se construit à la sueur de son front. Et il faut que chaque nation se mette debout.
Merci.
Le Congo, doté de ses ressources naturelles abondantes et surabondantes, devrait être le leader de la mondialisation, le leader de la francophonie, devrait être la pierre angulaire, je devrais dire, de toute l'économie mondiale.
Merci.
Mais nous sommes distraits, on n'y pense pas, on continue à tendre la main vers la France, vers les États-Unis, vers la Chine, vers tous ces pays du monde. Je ne sais pas.
Merci. Merci. Dans son discours, le président français a aussi mis l'accent sur la solidarité entre les pays membres de la francophonie. François Hollande les appelle également à montrer l'exemple dans la transparence, dans les échanges et dans les investissements des entreprises. François Hollande.
Je veux que la francophonie puisse porter, là encore, cette belle idée de la solidarité, du développement, et que nous puissions, nous aussi, montrer l'exemple, y compris dans la transparence, dans les échanges ou dans les investissements des entreprises. La France défendra au niveau européen la publication des comptes des entreprises minières, extractives, forestières, pour que pays par pays, projet par projet, sans exception, nous puissions être sûrs qu'il n'y a pas de prédation sur les pays d'accueil, et de façon à ce que nous puissions lutter plus efficacement encore contre la corruption et le pillage des ressources naturelles.
Voilà, Al-Kitenge, je reprends cette phrase du président François Hollande. La France défendra au niveau européen la publication des comptes des entreprises minières, extractives, forestières, pour que pays par pays, projet par projet, sans exception, nous puissions être sûrs qu'il n'y a pas de prédation sur les pays d'accueil et de façon à ce que nous puissions lutter contre la corruption et le pillage des ressources naturelles. Est-ce une avancée?
Ça me fait rire. Je ne crois pas que ça soit une vraie avancée. La première des choses que la France devrait faire, c'est d'aider à la publication des comptes des individus. Des comptes des individus qui pillent leur propre pays, et cela dure un peu trop longtemps. La vérité, ce que François Hollande est en train de dire, c'est que c'est honteux pour des pays riches de laisser leurs entreprises venir piller de manière honteuse des pays pauvres. Et ça se dit de plus en plus haut, et les ONG essentiellent anglophones le décrit de plus en plus, et votre radio le relaie de manière simple, et il est inacceptable que ça continue. Mais ce que moi j'ai envie d'appeler ici, ce n'est pas François Hollande, ce sont les Congolais. Ceux qui assistent et qui voient, qui témoignent du vol au jour, le jour, par des individus congolais et étrangers, par des entreprises congolaises et étrangères, il faudrait qu'on se mobilise contre ce mal qui tue notre pays. C'est vrai, la France et l'Europe peuvent se battre, peuvent décrier, ils peuvent nous aider, mais la première aide doit venir de nous-mêmes. Nous devons assurer une certaine vigilance de la cité.
Professeur Bakan, déjà également un commentaire sur les propos de François Hollande que vous venez de suivre.
Mais d'abord, il faut vraiment féliciter le président français pour avoir été parmi les premiers à dire officiellement ce que beaucoup de gens pensent. On sait comment se comportent les entreprises minières qui ne publient pas ce que elles payent à des États. On sait ce que font les entreprises forestières et certaines entreprises agricoles dans certains pays au niveau du continent. Deuxièmement, François Hollande aussi l'a dit implicitement, la prédation n'est pas seulement le fait des investisseurs étrangers. La prédation est plus le fait des décideurs nationaux. Et on le sait. Al-Kitenge vient de le dire tout à l'heure, ceux qui pillent les ressources de leur pays en conflit avec les étrangers et qui organisent ce pillage, il faut aussi les poursuivre. Il faut les poursuivre devant les tribunaux parce qu'ils commettent des crimes contre l'humanité.
Merci.
Le fait que dans la plupart de nos pays, la pauvreté se soit aggravée davantage, devait pousser à plus de responsabilité de la part des décideurs du monde de s'engager dans cette lutte effrénée contre la corruption et la prédation économique.
Michel Sommet, commentaire également.
Écoutez, transparence comme on en parle, je ne sais pas qui doit réclamer cette transparence. C'est une affaire à mon
avis. Michel Sommet, la qualité de votre ligne se dégrade si en
est-ce
même temps vous...
Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant?
Vous, voilà, ça va un peu mieux. Essayez de bouger si ça se...
Je me suis déplacé, je crois que vous m'entendiez mieux. Je pense que M. François Hollande plaide pour la transparence. Simplement, peut-être, excusez-moi d'être sûr, mais je crois qu'il voudrait voir trop clair dans le fonctionnement des économies africaines pour faciliter la mainmise de la France sur les pays, sur les économies africaines. Ça, c'est mon point de vue. Je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la solidarité dont il parle n'est pas une réalité économique. Ce n'est même pas un concept économique. La solidarité dont il parle, c'est qu'un bluff juste pour permettre aux multinationales françaises de contrôler les économies africaines, notamment l'économie congolaise, lorsque on connaît parfaitement mieux les statistiques d'exploitation de ces ressources minières. Moi, je pense que quand on parle de transparence, c'est d'abord une affaire de la souveraineté d'une nation. À l'intérieur de la nation, on doit se communiquer les statistiques. Ça doit d'abord être un secret. Mais encore faut-il que je dise que cela suppose que ce pays, comme le Congo, pour en parler, parce que c'est quand même l'une des plus grandes réserves des ressources minières à travers le monde, mais il faudrait que ce pays dispose lui-même d'un système de communication qui permettent qui reflètent une certaine souveraineté.
Merci.
Dès lors que les instruments de la communication, de la télécommunication, sont entre les mains des partenaires étrangers totalement, ça nous pose un grand problème. Et ce que moi je crains, c'est que derrière le mot de transparence, on cherche seulement l'information la plus claire pour permettre justement le contrôle des économies des nations qui
Merci.
Sont encore quelque part stupides.
Voilà.
C'est ce que moi je crains, c'est ce que moi je trouve ça comme commentaire. Je suis tout à fait d'accord avec la transparence, mais je crois qu'elle doit, dans un premier temps, demeurer un secret d'une nation, une chose qui circule à l'intérieur de la nation,
Merci.
Et non pas être mis sur la table de la mondialisation, pour que chacun vienne avec des moyens plus forts
Merci.
Et prendre possession de ce qui nous revient.
Merci. Al-Kitenge, quel pourrait être l'impact de toutes ces résolutions sur l'économie des pays de l'espace francophone? C'est notre deuxième partie. Il y a des auditeurs qui ont leurs idées, leurs propositions. Patrick Tenakwiso d'Issiron en province orientale. La RDC est classée dans quelle catégorie? Pays pauvres, moins développés ou en voie de développement pour le moment, car s'il y a la volonté politique de la bonne gouvernance, la RDC ne prendra pas du temps pour sortir la tête de l'eau, c'est-à-dire le sous-développement et la pauvreté sur tous les plans. Il y a encore Yannick Tanda de Puilikasi au Katanga. Je suis sceptique que ces résolutions puissent relever l'économie des pays francophones. Il faut d'abord résoudre les problèmes d'ordre sécuritaire. Tous les défis économiques soulevés au cours de la réunion de la francophonie seront pour avec la paix Al-Kitenge.
J'aime bien entendre mes compatriotes parler et des fois ça me fait horriblement mal de les entendre répéter des concepts qui malheureusement n'ont pas de sens. Vous savez, quand on parle de bonne gouvernance, en réalité on devrait parler simplement de gouvernance. Quand on parle de la transparence économique et financière, lorsqu'on parle de l'attractivité des pays, à un moment donné, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que les gens comprennent réellement derrière ces choses. Mais moi, je dis simplement une chose, et il faut bien la regarder, elle est claire dans les résolutions, c'est la responsabilité. Vous savez, j'ai beaucoup aimé cette recommandation, celle de mettre de la lumière et de la force sur la responsabilité sociétale des entreprises. Alain, je vais vous poser une question. Chaque jour qui passe, c'est près de 2 à 3 millions de dollars de chiffre de vente de la bière dans ce pays. Est-ce que vous savez que votre enfant de 5 ans peut aller acheter de la bière et consommer sans que personne ne l'en empêche? Dans tous les pays du monde, c'est une matière hautement réglementée. Je peux vous donner un autre exemple. Lorsque vous regardez bien dans la bière toujours, cet argent qui circule, est-ce que vous pouvez me citer 10 opérateurs économiques dans la ville de Kinshasa qui se sont développés avec la distribution de la bière? La réponse est qu'il n'y en a pas. Lorsque vous regardez ce genre de choses, vous vous dites, tiens, les gens nous enveloppent avec des millions de dollars, mais en fait, ils les prélèvent. C'est de l'irresponsabilité. toutes les sociétés qui travaillent au Congo ont le devoir de développer et de domestiquer l'économie congolaise. C'est un devoir. Si elles ne le font pas de gré, il faudrait bien que les lois les y obligent. Ça, je pense que ça interpelle aussi bien le gouvernement que le Parlement, parce que notre pays n'a aucune loi en matière de responsabilité sociale des entreprises. Et ça, c'est la grande notion de ces 10 dernières années. Je pense simplement que c'est le plus important des points qui ont été soulevés lors de ces recommandations, et je crois que le Congo a le devoir d'accélérer là-dessus.
Alors, domestiquer l'économie congolaise, Al-Kitenge, cela passe en plus de la législation. Qu'est-ce qu'il faut?
Il faut développer des mécanismes qui permettent aux Congolais de saisir une partie de l'argent qui circule chez nous. Sinon, on est en train de nous piller. C'est pour ça que dans tous les pays du monde, l'Afrique du Sud en premier, on a créé des mouvements du genre Black Economic Empowerment. Ça veut dire en fait des systèmes spécifiques qui donnent accès privilégié aux Congolais. Parce que tout compte fait, vous savez, lorsque le gouvernement congolais paye de l'argent aux Chinois pour faire les travaux qui sont ici, il faut se poser la question de savoir par quel mécanisme cet argent quitte le pays. Vous allez vous rendre compte que l'argent n'atterrit même pas dans les comptes et ne se transfère même pas par voie bancaire. Ça, c'est des choses complètement inacceptables. Lorsque on déploie des milliards de dollars dans le secteur des travaux publics et que les entreprises chinoises gagnent des marchés, il faudrait que derrière ces entreprises chinoises, il y ait des entreprises congolaises qui gagnent de l'argent pour que cet argent reste ici et se redistribue. Sinon, nous sommes en train d'aller vers une situation sociale catastrophique. On aura des routes, on aura quelques infrastructures et tout sera parti et nous aurons une explosion sociale.
Professeur Bakandeja, il y a destiné Chamakwete de Kananga au Kassai occidental qui dit, je prends le deuxième passage de sa réaction. Pour moi, la meilleure façon de nous développer serait de nous enfermer et travailler de sorte à façonner notre propre plan de développement correspondant à nos propres réalités. Professeur.
Oui, je comprends la question qui a été posée, mais on ne va pas s'enfermer sans moyens. Parce que le développement suppose qu'il y ait des moyens qui soient mis à la disposition des agences économiques pour créer la richesse. Or, nous n'avons pas un secteur privé. Nous n'avons pas un secteur privé capable de répondre à ce défi. Et combien, si je prends le cas, par exemple, des opérateurs économiques au niveau de la province du Kassai occidental ou d'autres provinces au niveau du centre du pays, ils investissent dans quel secteur? Est-ce qu'ils investissent dans la production? Est-ce qu'ils investissent dans la production agricole? Parce qu'il faut partir de la richesse. Quelle est la véritable richesse qui peut permettre de nourrir les populations? Parce qu'on parle de la malnutrition et tout ça. C'est d'abord la production agricole. Combien sont capables de transformer leur milieu en y implantant des champs, des grands champs? Quand on va dans le Kassai, par exemple, on se rend bien compte que les gens ne travaillent pas. Et les gens se craignent de la faim. Or, ils ont une terre fertile. Rien que ce secteur-là, la plupart, tous les États qui se sont développés, ils ont développé d'abord l'agriculture. Nous avons une autre culture au Congo, on pense qu'on va se développer avec les ressources minières, qui ne sont pas des ressources éternelles, elles vont s'épuiser. Or, dans le secteur agricole, il est possible, avec les nationaux, de voir ce qu'on peut faire localement, en mettant les moyens, en utilisant alors les systèmes bancaires. Il faut réformer le système bancaire pour que nous ayons quand même des banques de développement, parce qu'au Congo, maintenant, nous n'avons pas des banques de développement. Nous avons des banques commerciales où on fait des opérations de spéculation en court terme, mais qui ne peuvent pas permettre de résoudre les problèmes que nous avons, les problèmes de la famine, les problèmes des maladies et la famine. La famine provient du fait que les gens ne mangent pas correctement. Alors si nous devons importer à l'extérieur, on ne trouvera pas une solution. Donc avant d'envisager de s'enfermer sur soi-même, il faut mesurer ses capacités financières de pouvoir résister face aux nombreux défis qui vont se poser lorsque les gens ne trouveront pas de quoi manger, parce que si quelqu'un n'a pas mangé, il ne peut pas aller travailler.
Merci, professeur. Michel Somoué, le professeur Bakandeja avait tout à l'heure dit que l'espace francophone ne représentait plus ou moins que 20% des échanges mondiaux. Al-Kitenge a insisté sur la responsabilité sociale des entreprises. Ces résolutions pourraient-elles, d'après vous, permettre avoir un impact quelconque sur les pays de l'espace francophone?
Non, je pense qu'il ne faut pas voir, il ne faut pas attendre, je me répète, il ne faut pas attendre un cadre d'organisation internationale ou régionale Il ne faut pas attendre d'un tel cadre un miracle quelconque. Je pense que le développement d'une nation est d'abord un fait de ses propres autochtones. Il faut que chaque pays s'organise pour affirmer son identité à l'intérieur d'un espace régional ou international donné. À partir du moment où on n'existe pas soi-même, on ne peut pas attendre des autres quoi que ce soit, parce qu'on est soi-même un néant. Un néant ne peut rien espérer du reste du monde. Il faut que l'on commence par se battre pour exister soi-même, en créant ce qui manque, ce dont parle le professeur Bakandeja. Ce n'est pas l'absence du secteur privé qui pose problème dans ce pays. Le secteur privé existe bel et bien. C'est le cadre d'expansion du secteur privé qui n'existe pas, c'est-à-dire un État capable d'impulser une activité économique à l'intérieur d'un pays, un État sécurisant, qu'on le conçoive comme un État gendarme, selon les libéraux, ou comme un État providence, selon les keynésiens. Le problème des pays africains est un pays essentiellement d'organisation d'une certaine responsabilité étatique publique, je veux dire. La responsabilité sociale des entreprises. Encore une fois, excusez-moi de le dire, tout cela nous renvoie à une certaine solidarité, à une certaine compassion, à un certain amour. Mais l'économie ne se mesure pas, je répète, ce n'est pas une science morale, une science du bien et du mal. Merci. L'économie est une science de l'intérêt, point barre. Donc, quand un opérateur économique s'engage dans une activité économique, il vise essentiellement ses intérêts. La responsabilité sociale des entreprises ne peut pas exister là où il n'y a pas un État organisateur viable.
Michel Sommer.
Il faut d'abord, excusez-moi, je termine. Il faut d'abord que l'État lui-même existe comme une res publica, un intérêt public, un intérêt communautaire, pour à ce moment-là obliger les entreprises à une certaine, je veux dire, à une certaine discipline. Merci. Dans leur comportement, qu'ils puissent se rencontrer justement pour que les intérêts privés ne puissent pas violer l'espace public.
Merci.
C'est à ce moment-là qu'en fait, on peut parler d'une responsabilité sociale de l'entreprise.
Merci. Merci Michel Sommoy, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Alkitenge, la RDC doit se définir comme une entité, en plus de la bonne gouvernance dont on a souvent parlé. Que faut-il pour que finalement la RDC puisse décoller en guise de conclusion?
La RDC a besoin de s'inventer d'abord, d'exister sur l'étendue qui lui est donnée par la nature, de savoir faire l'inventaire de ses ressources et de ses potentiels, savoir se valoriser sur la place internationale pour être en mesure de se défendre, créer une cohésion nationale autour de ce qui nous unit et ce qui nous met ensemble, donner à chacun de ses enfants, où qu'il soit, un véritable sens d'appartenance à cette nation et un véritable espoir. À partir de ce moment-là, nous allons arrêter de nous tirer les uns sur les autres, nous allons regarder de plus en plus l'intérêt général, ce qui nous appartient à nous tous, plutôt que l'égoïsme exagéré, et nous pourrons avoir une possibilité d'une vision d'un pays, d'un plan national de développement, mais également un attachement à la République, un attachement à la nation.
Professeur Bakandeja, créer une cohésion nationale, cela passerait-il par une justice distributive?
Ah oui, justement, tout part de la justice distributive. Donc il faut d'abord s'assurer que toutes les ressources publiques sont canalisées vers le trésor. Il ne peut pas y avoir distribution si les ressources ne passent pas par le trésor. Et c'est justement pourquoi on parle de la corruption, de la confusion, qui sont des mots qui sont connus au Congo. Mais tant que l'autorité de l'État ne sera pas restaurée, et cette autorité passe par quoi? Passe nécessairement par la fiscalité. Vous savez qu'en matière de fiscalité, nous sommes un des États considérés d'ailleurs comme un paradis fiscal. Parce que les agents économiques qui opèrent, ceux qui sont honnêtes, payent les impôts, mais la majorité n'est pas considérée comme des honnêtes hommes.
Hein. Merci.
Et alors en ce moment-là, ça fait échapper à l'État les moyens devant lui permettre de faire une organisation économique.
Merci.
En aidant parfois les agents économiques à se ressourcer.
Merci.
Auprès de l'État.
Merci, professeur. Michel Sommoy, juste un mot pour conclure.
Ben, je souhaite pour le plein succès à la francophonie. Je veux dire, c'est pas ça le recette de la francophonie. Comme s'appelle, mais je pense que, encore une fois, comme je l'ai dit, il faudrait que les nations, indépendamment d'une langue ou d'une autre, ou d'une culture ou d'une autre,
merci Michel Sommet, c'est par vous que nous terminons cette émission. Désolé de vous couper. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.